Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à vous tous, fidèles et nouveaux auditeurs de Mélomanie. Merci d'être à l'écoute du magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous lui avions consacré une large partie de notre dernier numéro. La première édition des musicales franco-russes s'est poursuivie à Toulouse la semaine passée et elle va se poursuivre encore jusqu'à ce dimanche 16 mars. Sa programmation va donc encore occuper une grande part de cette émission, vous vous en doutez. Mais il y a aussi d'autres concerts à Toulouse et ailleurs dans les jours qui viennent, comme vous allez le constater. Pour évoquer cette riche actualité, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, une fois encore, le très fidèle Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Tous les deux, nous entourons l'invité d'honneur de ce numéro, Laura Esminger, altiste de l'Orchestre National du Capitole et membre du Quatuor à cordes qui va se produire lors du prochain concert des Clés de Saint-Pierre. Ce sera ce lundi 18 mars à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec un programme passionnant dont nous allons parler avec elle en seconde partie d'émission. Dans l'immédiat, c'est l'actualité musicale de la semaine dernière qui va nous intéresser lors de notre habituelle rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et les musicales franco-russes se poursuivaient donc la semaine dernière avec entre autres le concert Féerie française donné par l'Orchestre National du Capitole, le Chœur du Capitole et les chanteuses Karine Dehaie et Sandrine Pio sous la direction du chef japonais Kazuki Yamada. C'était vendredi et il y avait au programme La Damoiselle élue de Claude Debussy et Daphnis et Chloé de Maurice Ravel dans sa version ballet originelle. C'était le grand rendez-vous de la belle musique française de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Tous les amoureux de cette musique y étaient, sauf moi, et Dieu sait que je regrette de n'avoir pas pu être présent à cette soirée. En revanche, Serge, vous avez eu le privilège d'assister à ce concert. Est-ce que la féerie annoncée a été au rendez-vous ?
Ah oui. Le charme était là, la beauté des timbres, la beauté de la musique évidemment. Et puis bon, l'Orchestre du Capitole est un orchestre bien habitué à ses répertoires. Effectivement, c'était un très beau concert, avec tout d'abord cette Damoiselle élue, que je ne me souviens pas d'avoir entendu ici, à la Lougrin, dans un passé récent.
Vous en souvenez pas, je pense que personne ne va s'en souvenir.
Non. Alors que c'est une œuvre d'une beauté extraordinaire, d'une transparence, d'une poésie, d'un charme, avec un onérisme incroyable. Et puis ces paroles ahurissantes du peintre et poète pré-raphaélite anglais, Dante Gabriel Rossetti. Et donc, vraiment, c'est un autre monde qui a été magnifiquement visité par cet orchestre, par le chœur, la section féminine du chœur du Capitole, avec un très bel équilibre entre le chœur et l'orchestre. Et puis les deux solistes, alors là, il y a eu un tout petit problème au départ, l'équilibre n'était pas parfait, les voix étaient un peu couvertes par l'orchestre au tout début, puis ça s'est amélioré. Effectivement, je ne sais pas pourquoi, on avait mis Karine Dehaie dans l'orchestre, et donc sa voix avait un peu de mal à passer par-dessus l'orchestre au départ. Ensuite, ça s'est vraiment arrangé. Et donc, voilà, un magnifique moment de poésie où la fusion entre le chœur féminin et l'orchestre a été parfaite. Donc un très beau moment pour cette découverte, puisqu'il s'agissait pour la plupart des auditeurs de cette soirée-là d'une découverte, effectivement.
Oui, parce que je pense que c'était une première à Toulouse avec l'Orchestre du Capitole. En tout cas, s'il y en a une avant, ça doit remonter à très longtemps. Et puis, sans doute que beaucoup de gens présents ce soir-là ont découvert cette œuvre pour la première fois.
Oui, bien sûr. C'est une œuvre de jeunesse, de Debussy, et qu'on ne donne pas très souvent. Très bien.
Oui, il a 25 ans quand il a 25, 26 ans.
Oui, c'est ça. En 1887-88. Et puis, en deuxième partie, ce magnifique ballet Daphnis et Chloé en intégrale, qu'on ne donne pas très souvent. L'orchestre l'a donné en 2015, je crois, oui, sous la direction de Yannick Nézet-Séguin.
Oui, avec le chœur archipel, il me semble, de Joël Subiette.
Oui. Donc, on était tout heureux du retour de cette partition. Magnifique, complètement
formidable. C'est toujours un bonheur,
C'est un bonheur de chaque instant. Encore une fois, l'équilibre chœur-orchestre avec ce chœur sans parole, qui est en quelque sorte des pupitres supplémentaires à l'orchestre. C'est comme des instruments supplémentaires, donc c'est tout à fait magnifique. Et puis, ils ont un rôle important. On se rend compte en écoutant les suites que Ravel en a tirées, la première et la deuxième, c'est surtout la deuxième qu'on joue le plus souvent, à partir du lever du jour, le fameux lever du jour. Et donc, on s'aperçoit quand même de l'apport du cœur. C'est fondamental dans la partition qu'il y ait ce cœur. Ça joue un rôle, non pas dramatique, mais un rôle musical.
Bah, moi, je trouve que c'est ça qui donne la féerie à
mais
la
oui,
partition.
Absolument. Absolument. Et puis alors, il faut encore une fois féliciter les solos, les solides de l'orchestre. Hein. Le corps a des choses fabuleuses à jouer. La flûte, évidemment. Alors, Sandrine Tilly, ça n'est donné à cœur joie, là, évidemment. C'est une grande habituée de cette partie.
Ah, elle est vraiment dans son élément, là.
Oui, tout à fait. Donc, c'était d'une poésie extraordinaire. Les nuances qu'il y a eu dans ce solo de flûte, ce fameux solo de flûte, hein, alors là, c'était vraiment merveilleux. Donc, bon... splendide, et aussi les percussions, parce qu'il y a vraiment un pupitre de percussions tout à fait pléthorique hein, pour cette œuvre. Là, c'était vraiment au plus haut. Hein. Les vents, les clarinettes, bassons, enfin bon. Et les cordes aussi, bien entendu. Comme d'habitude, là, on est habitué aussi au plus haut niveau, donc magnifique. Alors, moi, j'ai bien apprécié d'entendre distinctement les percussions rares que sont le tam-tam, le crotal, des instruments qu'on n'entend pas si souvent au sein de l'orchestre. Et donc, là, ils avaient leur rôle à jouer.
Et puis, il y avait un directeur d'orchestre souvent invité à Toulouse.
Exactement.
Qui venait peut-être pour la 5e, 6e ou 7e fois, je ne sais
oui,
plus.
Oui, oui.
Kazuki Yamada. Alors, comment vous avez trouvé sa direction?
Ah ben, comme d'habitude, une direction pétillante, pleine d'esprit. C'est un personnage particulier, Kazuki Yamada, et qui adore l'orchestre. Et puis apparemment, les musiciens l'aiment beaucoup aussi, hein, puisqu'on a constaté qu'à la fin de l'exécution, les musiciens l'ont laissé saluer tout seul, ils ont refusé de se lever pour lui permettre de saluer seul. Bon, ça signifie que ça marche très bien entre eux. Il y a des liens qui se sont tissés au cours des années. Et puis en plus, c'est un passionné de musique française. Hein,
comme souvent les Japonais.
Qu'il dirige très très bien. Donc c'était vraiment... excellent.
Alors, vous étiez dans la salle, mais nous avons dans ce studio une personne qui, elle, était dans l'orchestre et qui va pouvoir nous dire comment elle a vécu ça de l'intérieur. Alors, Laura Esminger, comment vous avez vécu ce concert?
Alors, pour moi, c'était vraiment un grand bonheur de jouer cette pièce, donc le Ravel, enfin l'ensemble du concert même. C'était vraiment extraordinaire de jouer le Ravel avec les chœurs. Je ne l'avais jamais joué avec les chœurs.
Vous avez joué la suite numéro 2, qui
voilà.
Est jouée presque chaque année à Toulouse.
On l'a déjà joué plusieurs fois, et là, avec les chœurs, mais ça a ajouté vraiment une autre dimension. Je me suis amusée du début à la fin de ce concert.
C'est une musique que vous aimez jouer et écouter, j'imagine, mais jouer aussi?
Oui, on se sent comme tout petit au milieu de la masse, mais on se sent faire partie de quelque chose de grandiose.
Et non, mais les altos ont un rôle important à jouer. Ils ont une couleur dans cette œuvre qui est formidable. Il y a certains moments dans lesquels le pupitre d'alto a un rôle important à jouer. Hein, donc,
c'est vrai qu'on avait des gros solis assez à découvert et c'était hyper...
Oui.
Voilà.
Ah, oui, non, magnifique.
Et Kazuki Yamada, vous, ça ne doit pas être la première fois non plus, que même si vous êtes encore relativement jeune dans l'orchestre, mais il y a quelques années que vous êtes présente, il y a un moment où je vous vois dans le pupitre des altos, je sais qu'il est très apprécié par les musiciens de l'orchestre.
Au-delà de la gestuelle qui est importante en jouant, c'est important aussi de ressentir sa présence, et je trouve que c'est un homme d'une grande douceur et c'est intéressant de jouer sous sa battue.
Et je comprends bien, c'est à la fois une présence et une direction bienveillante, Kazuki Yamada.
Oui, mais il a une grande douceur dans les moments doux, mais par exemple, le paroxysme final, la bacchanale, mais c'était délirant. C'était vraiment une explosion et ça a été ce qu'il fallait. Et ça a été acclamé par le public de manière tout à fait enthousiaste.
Je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas souvent l'occasion d'entendre la Damoiselle élue en concert. Alors pour vous en donner un petit aperçu dans cette émission, voici un extrait du poème symphonique de Claude Debussy, La Damoiselle élue s'appuyait. un extrait de La Damoiselle élue de Claude Debussy, une version du London Symphony Orchestra dirigée par Claudio Abbado. Il est vraiment dommage qu'on n'entende pas plus souvent cette œuvre en concert, donc merci à l'Orchestre du Capitole de l'avoir programmée vendredi dernier à la Hallograin. Nous allons maintenant parler d'un concert qui a eu lieu lundi, également à la Hallograin. Il était donné dans le cadre de la saison des grands interprètes et il réunissait la violoncelliste Sol Gabetta et le pianiste Bertrand Chamaillou, l'enfant du pays comme on aime à l'appeler dans sa ville de naissance. Le duo a joué un programme franco-russe puisque ce concert était labellisé lui aussi musical franco-russe. Serge, vous étiez encore dans la salle. Rappelez-nous les œuvres et les compositeurs qui étaient au menu de la soirée.
Ben voilà, donc encore une fois, c'était une mise en parallèle de musique française, de musique russe. La toute première partie était consacrée à de la musique française, avec tout d'abord la fameuse sonate pour violoncelle et piano de Claude Debussy, et puis la sonate, toujours pour violoncelle et piano, de Francis Poulenc, autre grand compositeur français, de tempérament totalement différent. Et puis en deuxième partie, c'était la grande, magnifique et romantique sonate de Rachmaninov, qui était jouée par les deux jeunes interprètes. Alors deux jeunes interprètes qui, c'est amusant, sont nés exactement la même année, en 1981, Bertrand Chamaillou à Toulouse évidemment, et Sol Gabetta, née à Cordoba, en Argentine, mais elle a beaucoup voyagé.
Elle vit en Suisse depuis très longtemps. Elle vit en Suisse aussi, la nationalité suisse, pardon.
Et puis ce sont des amis depuis 20 ans à peu près.
Oui, ils sont connus adolescents.
Ils se sont connus tout jeunes, et donc entre eux, il y a une complicité, une fusion même qui est tout
Une longue amitié aussi.
Des liens d'amitié formidables. Donc ça marche très bien, quoi. Entre eux, c'est une collaboration au-delà d'une collaboration purement musicale. Trois sonates. Alors la sonate de Debussy, il faut se souvenir qu'elle devait faire partie de 6 sonates que Debussy avait prévu de composer. C'était pendant la guerre, la Première Guerre mondiale. Et Debussy voulait comme ça témoigner l'importance de la musique française face à l'hégémonie germanique. Il y avait un peu de nationalisme dans son attitude. Malheureusement, il n'a pas pu composer les 6 sonates, il n'en a composé que 3. 3 magnifiques sonates, il faut le dire. La sonate pour violon, la sonate pour violoncelle et la fameuse sonate pour flûte, alto et harpe. Là, cette sonate est magnifique, hein, est très belle, avec ses 3 mouvements à la fois pleins de jeunesse et de vitalité lorsqu'ils sont interprétés par le duo en question. Très très beau. Mais alors, ils ont joué un Debussy qui ne cherchait pas dans le flou. Quelque chose de très structuré. Ils l'ont joué avec vigueur.
Il n'y avait pas
vigueur.
Le flou debussiste comme on peut l'imaginer.
Non. C'est de l'impressionnisme, mais de l'impressionnisme solaire en quelque sorte. Et donc, ils ont donné là et c'était vraiment très très beau. Alors, avec Francis Poulenc, le ton change évidemment, tout à fait délibérément. Ce Poulenc que Claude Rostand qualifiait de moine et voyou, et ben là, il y a un peu du voyou, hein, en particulier dans le premier mouvement, le premier des 4 mouvements. Donc, et c'était plein d'esprit, d'humour, donc très 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 beau, avec la danse du scherzo, scherzo qui est intitulé d'ailleurs Balabil, qui signifie comme une danse en quelque sorte, avec un peu de nostalgie aussi. Poulenc, c'est toujours ça, hein. Le côté moine est incarné par la nostalgie qu'il instille dans sa musique, hein, et quelquefois de la souffrance même, donc c'était tout à fait intéressant et magnifique.
Oui, il y a un petit côté doloriste parfois chez Poulenc.
Oui, exactement. Poulenc, surtout depuis qu'il a eu la révélation à Rocamadour, hein, donc, et qu'il s'est en quelque sorte réapproprié le catholicisme.
Il est devenu très pieux.
Devenu très pieux, oui, tout à fait. Alors, donc, en deuxième partie, ça change complètement, hein, à la fois de tempérament.
D'ambiance aussi.
D'ambiance et de vocabulaire, hein, puisque la sonate en sol mineur de Rachmaninov, d'abord, elle est abordée par tous les grands solistes passés et présents de la grande école russe, hein. Et alors, la date de sa composition est importante puisque elle termine la grande dépression qui a été celle de Rachmaninov à la suite de l'échec extraordinaire de sa première symphonie, qui avait été dirigée par un Glazounov soi-disant pris de boisson, et donc qui avait massacré l'exécution de cette première symphonie, ce qui avait désolé évidemment Rachmaninov. Et là avec cette sonate, tout reprend, une sonate vraiment d'un romantisme magnifique, hein, avec une espèce de générosité dès le premier allegro qui suit le lento, puisque le premier mouvement s'ouvre sur un lento avant une introduction donc assez lente. Alors là, magnifiquement, Sol Gabetta a vraiment développé un phrasé extrêmement généreux, là aussi très beau, très large, soutenu par un piano effervescent, évidemment, avec Bertrand Chamaillou. Alors en particulier, dans le mouvement qui suit, il y a un passage de cadence au piano qui évoque tout à fait le deuxième concerto, hein. Et on a comme ça eu l'idée de ce que doit donner Bertrand Chamaillou s'il est soliste de ce concerto de Rachmaninov, ce qu'il a peut-être été, hein, et ce qui vaudrait le coup de le refaire. Et puis il y a l'andante, alors l'andante, ça, c'est ce genre de phrase musicale que Rachmaninov s'est magnifiquement développé, d'une grande sensibilité, et les deux complices, là, vraiment, ont joué une espèce de duo, hein. On a l'impression qu'ils chantaient tous les deux. Et avec le crescendo, j'ai été tout à fait stupéfait par l'intensité du crescendo qu'il y a au milieu de cette andante. Et puis enfin, le final, à la fois élégiaque et passionné, ce qui est une gageure à exécuter, qui était vraiment très très beau. Donc, c'était une espèce de renouveau après la dépression de Rachmaninov.
Alors, je suppose que comme la salle était enthousiaste,
tout à
donc
fait,
il y a dû y avoir un, même sans doute plusieurs bis.
Ah, il y a eu deux bis, hein, évidemment. Le public a réclamé de manière impérative deux bis. Alors, le premier bis était un nocturne de Tchaïkovski, l'opus 19, numéro 4, mais dans un arrangement pour piano et violoncelle.
Oui.
Alors, d'un violoncelliste allemand que je ne connaissais pas, qui s'appelle Wilhelm Fitzenhagen, enchanté. Très bel arrangement de ce nocturne. Et puis ensuite, ils ont de nouveau poursuivi, toujours dans la veine russe, avec le deuxième mouvement de la sonate en ré mineur pour violoncelle et piano de Shostakovich. Bon, c'était l'autre phase des musicales, donc en deuxième partie.
Donc les bis étaient russo-russes. Là, ils ont pas
fait russo-russe, oui, oui. Toute la deuxième partie était russe, alors que toute la première était française.
Alors, ils n'ont peut-être pas joué du Chopin lors de ce concert, mais comme je l'ai dit la semaine dernière, le duo Bertrand Chamaillou-Sol Gabetta avait fait paraître un très bel album consacré au grand compositeur franco-polonais il y a quelques années. Je vous propose d'écouter un extrait de ce CD. Voici le Nocturne opus 14 numéro 1 de Frédéric Chopin.
Thank you.
Le Nocturne opus 14 numéro 1 de Frédéric Chopin, interprété par le duo Bertrand Chamaillou-Sol Gabetta, un extrait tiré de leur album Chopin paru il y a quelques années. Et puis je voulais signaler qu'en même temps ce soir-là, à Saint-Pierre-des-Cuisines, alors que Sol Gabetta et Bertrand Chamaillou étaient à la Halle au Grain, il y avait un concert de la saison des Arts Renaissants qui réunissait Roger Muraro et ses amis. Ils ont joué entre autres le Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen. Il paraît que c'était un concert vraiment splendide. Bon, malheureusement, on ne pouvait pas être aux deux endroits à la fois, mais je voulais quand même donner un coup de chapeau aux Arts Renaissants d'avoir programmé ce magnifique pianiste et ce très beau programme. Nous enchaînons avec un autre concert des musicales franco-russes, mais dans un registre très différent celui-ci. Mercredi, toujours à la Halle au Grain, c'était le premier des trois rendez-vous donnés par le Bolchoï à Toulouse cette semaine. Pour ce premier volet, c'est le chœur du théâtre Bolchoï qui se produisait seul et a cappella sous la direction de son chef attitré Valéry Borisov. Alors Serge, vous qui étiez encore dans la salle, quelles ont été vos impressions et vos émotions lors de ce concert très prestigieux et très attendu, il va sans dire.
Très attendu et très acclamé, puisque la qualité de ce chœur est spectaculaire. Hein. C'est un chœur mixte, évidemment, donc vraiment dont on peut admirer à la fois la justesse, la cohésion, les couleurs, typiquement russes évidemment, et l'équilibre parfait entre les différents pupitres. Vous savez, quelquefois, même d'excellents chœurs, il y a des petits déséquilibres qui se manifestent. Là, pas du tout. Entre les hommes et les femmes, c'est l'égalité absolue, quand il le faut évidemment.
Y compris dans la qualité.
Y compris dans la qualité, du grave à l'aigu. Et puis alors, ce qui impressionne, c'est le sens de la dynamique. Hein. Ça va du murmure le plus ténu, aux frontières du silence, on pourrait dire, jusqu'à l'éclat, un éclat spectaculaire des fortissimi. Et jamais l'équilibre des timbres n'est rompu, même dans les fortissimi les plus violents. Hein. Donc, c'était vraiment spectaculaire. Ça a impressionné tout le public, hein, je crois. Et puis, il y a une chose qu'il faut redire, c'est que je crois qu'on ne le trouve que dans les chœurs russes. C'est l'impressionnante et abyssale qualité des basses. C'est stupéfiant.
Oui. On les reconnaît tout de suite.
On les reconnaît immédiatement. Il y a des passages où on a l'impression que les chanteurs, des pupitres de basse en quelque sorte, font une espèce de pédale grave, comme une musique d'orgue. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc, vraiment une grande qualité pour tout ce concert. Alors, un concert qui était extrêmement varié, puisque ça commençait... Enfin, l'essentiel du concert, c'était quand même de la musique sacrée russe, orthodoxe, donc, avec notamment les deux grandes partitions dans ce domaine, qui sont les Vêpres de Rachmaninov et la liturgie de Saint-Jean Chrysostome de Tchaïkovski. Évidemment, pas l'intégrale, hein, ils ont donné trois extraits de chacune de ces partitions, vraiment au top niveau, quoi. C'était tout à fait impressionnant, avec là aussi un onérisme. On a l'impression qu'il y a eu des passages complètement planants, magnifiques, splendides. Et puis ensuite, il y a eu des pièces sacrées également d'autres grands compositeurs, dont certains, j'avoue, j'entendais parler pour la première fois, un certain Alexander Arkhangelsky, un autre, alors lui, on en entend parler, c'est Alexander Gretchaninov. Lui, c'est un nom qu'on connaît un peu mieux, de même que Pavel Tchesnokov. Et puis, il y avait un Georgi Sviridov. Oui, j'essaie de m'exercer.
Que de découvertes, et puis alors là, de grandes découvertes. Travailler notre russe.
Ah oui, non, il y a intérêt. Et puis Konstantin Sidorovitch, et enfin Vsevolod Bouyoukli. Ouf.
Bravo, c'est à sans faute.
J'ai terminé, ah, ça je ne garantirai pas, non. Et alors, à l'occasion de la plus grande partie de ces pièces, il y avait des solistes. Donc ils sortaient du chœur, des ténors, basses, soprano, mezzo, avec des... pour certains, des qualités vocales impressionnantes qui font que ces chanteurs sont prêts pour aborder des grands rôles, hein, sur scène, dans des opéras. Donc, vraiment, certains d'ailleurs ont été acclamés, ils ont dû revenir saluer à plusieurs reprises. Donc, vraiment très, très intéressant. Notamment un ténor, je n'en citerai qu'un, qu'on me pardonne de ne pas citer les autres, qui s'appelle Nikita Strachinsky, et qui chantait avec une voix d'une douceur, d'une beauté impressionnante, une romance populaire qui s'appelle La Clochette de Konstantin Sidorovitch. Vraiment de belles découvertes, avec cette espèce de mélange de couleurs et de spécificités en même temps russes, hein, mais d'une grande beauté, vraiment d'une grande beauté. Et puis alors, on a eu droit à deux bis. Alors, un bis qui prolongeait le programme, et puis un dernier bis, alors là, en rupture complète, une sorte de clin d'œil intégrée au répertoire international. C'était un extrait de La Force du Destin de Verdi, mais oui, le fameux La Virgine d'Elie Angeli, avec une mezzo-soprano en soliste. Et voilà, ça s'est terminé sur du Verdi pour ce concert du chœur du Bolchoï.
Laurent, je me demandais, pour une jeune musicienne comme vous, qu'est-ce que ça représente, le Bolchoï, son chœur et son orchestre? Ça a un côté légendaire.
Oui, effectivement, c'est un orchestre qui fait rêver. Et l'autre jour, par hasard, je suis allée sur le site du Bolchoï et c'est là que j'ai découvert le nombre de musiciens de cet orchestre. Ouais. Je me doutais pas du tout, mais c'est incroyable. Enfin, je crois que j'ai jamais vu un orchestre avec autant de musiciens.
C'est tout à fait impressionnant, oui, oui. Mais bon, là, ils étaient, je crois, pour les opéras, à peu près 80 musiciens, ce qui est déjà beaucoup, hein, pour la Lohengrin, qui est déjà un bel effectif. Et puis bon, donc pour deux opéras parmi, en tout cas pour un, les plus célèbres de Tchaïkovski, et pour l'autre,
et du répertoire russe,
une découverte, oui.
Nous allons conclure cette première partie d'émission avec le Bolchoï, mais nous en parlerons encore beaucoup dans une semaine, lorsque nous reviendrons sur le dernier concert des musicales franco-russes. En attendant, petite pause d'une minute avant de nous retrouver avec Laura Ensminger pour évoquer le prochain concert des Clés de Saint-Pierre. Restez bien à notre écoute, à tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et avec notre invité d'honneur, Laura Ensminger, altiste de l'Orchestre National du Capitole et membre des Clés de Saint-Pierre.
Mélomanie, l'agenda.
Et si Laura Ensminger est l'invitée d'honneur de ce numéro, c'est parce qu'elle va donner, avec trois de ses camarades de l'Orchestre du Capitole, ce lundi 18 mars à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, le quatrième concert de la saison des Clés de Saint-Pierre, un quatuor à cordes entièrement féminin pour un programme intitulé « Temps de guerre », ce qui peut susciter autant la curiosité que l'inquiétude. On va y regarder de plus près avec vous, Laura. Avant cela, pouvez-vous nous présenter vos complices, les trois autres musiciennes de ce quatuor à cordes au féminin?
Alors, au premier violon, ce sera Laura Jaillet. En deuxième violon, Clémence Méroux. Et au violoncelle, Aurore Dassès. Toutes assez jeunes musiciennes, jeunes recrues à l'orchestre.
La jeune garde de l'Orchestre National du Capitole, on en parle souvent avec Serge dans cette émission. Une garde féminine.
Un orchestre qui se féminise beaucoup. Et ça, c'est très bien. Hein. Là, je crois qu'on est proche de la parité. Hein.
Voire au-delà. Oui.
Thierry Dargoubet nous disait la semaine dernière que les femmes, si je puis dire, avaient pris le dessus à l'orchestre.
Oui. Non, mais c'est tout à fait impressionnant. Et beaucoup de jeunes. L'orchestre s'est rajeuni et féminisé.
Alors, j'en reviens à ce programme. Donc, le titre, c'est « Temps de guerre ». Qui en a eu l'idée? Qui est la meneuse?
Alors, à la base, c'était Laura Jaillet, donc la première violon, qui a voulu monter ce programme. Elle a découvert ce quatuor de Ullmann. Il nous l'a fait écouter et le thème s'est imposé assez vite, puisque c'est donc un compositeur qui a été déporté pendant la guerre. Et ensuite, on a assez vite trouvé le Shostakovich, le troisième quatuor, et la pièce Different Trains, aussi sur la guerre, de Steve Reich.
Quand un quatuor se forme comme ça pour les Clés de Saint-Pierre, ça se passe comment? Ça se passe par affinité musicale, par affinité amicale?
Les deux à la fois. Les affinités amicales, c'est important pour s'entendre en répétition. C'est très important.
Oui, quand il faut travailler, évidemment.
Voilà. Même pour établir le planning, définir combien de répétitions on a besoin, tout ça. Et aussi affinité musicale, d'avoir envie de jouer ensemble, c'est hyper important.
Pour vous quatre, je pense que ce sera la première fois que vous vous produisez toutes les quatre ensemble dans un concert.
Oui, c'est ça.
Une première, donc, Temps de guerre. que des œuvres du XXe siècle. C'est lié à la Seconde Guerre mondiale, hein. Pas d'œuvres qui sont liées à la Première. Alors il y a de très belles découvertes là-dedans, des œuvres peu jouées mais toutes superbes. On va parler d'abord, c'est l'œuvre qui va ouvrir le concert, vous allez me le confirmer, Different Trains de Steve Reich. C'est alors, respecté ou ça a changé ça ?
Le programme n'est pas...
L'ordre n'est pas encore figé.
Si l'ordre est figé, mais il n'est pas écrit...
Alors moi j'ai décidé de commencer par Steve Reich. Vous ne m'en voudrez pas. En fait, ça part à l'envers parce que c'est le plus près de nous. D'ailleurs, c'est voilà. Le seul qui est toujours vivant. Parmi les trois compositeurs des trois pièces qui vont être jouées lundi, Steve Reich, compositeur, en tout cas c'est ce que je pense, moi, très intéressant, né en 1936 et donc toujours de ce monde, il a 82 ans, un des chefs de file de ce courant de la musique contemporaine qu'on appelait minimaliste. Dans ce mouvement, il y a surtout des compositeurs américains, Philip Glass, John Adams, Terry Riley, il y a l'anglais aussi Michael Nyman. Certains y ajoutent aussi l'estonien Arvo Pärt. Bon, ils ont tous plus ou moins 80 ans, ces gens-là. Ils sont tous toujours vivants, d'ailleurs. Donc, de Steve Reich, vous allez jouer Different Trains, œuvre de 1988, relativement récente, une de ses plus célèbres, je crois. Est-ce que vous connaissez cette pièce avant qu'on vous propose de la jouer, Laura ?
Non, je ne la connaissais pas. Vraiment, c'est Laura, donc Laura Jaillet, qui me l'a fait découvrir.
Et Steve Reich, vous connaissiez sa musique ou pas du tout ?
J'avais déjà entendu, mais j'en écoutais pas fréquemment, j'avoue.
Et vous, Serge Chosy, qu'est-ce que vous pensez de Steve Reich ?
Ah ben, c'est un très grand compositeur, évidemment, hein, avec cette particularité de musique à la fois minimaliste ou répétitive, toute cette école américaine qui inclut également John Adams, hein, qui est peut-être le plus orchestrateur du groupe. Très intéressant, hein, et d'autant plus que cette œuvre a une particularité, j'imagine que vous allez l'aborder.
Oui.
Il n'y a pas que quatre musiciennes, en l'occurrence, d'instruments à cordes. Il y a aussi un élément sonore supplémentaire.
Different Trains, alors il y a une particularité, donc il y a bien un quatuor à cordes, ça tombe bien. Mais il y a autre chose, parce qu'il y a d'autres sons. Qu'est-ce qu'il y a en plus du quatuor à cordes, Laura ?
Donc il y a une bande magnétique composée de musique, de bruits de train, de klaxons, de sirènes, mais également de paroles de personnes que Steve Reich a interviewées, notamment sa gouvernante avec laquelle il prenait le train quand il était petit, des déportés également, des déportés pendant la guerre. Et donc tout ça pour former un texte qui a un sens vraiment du début à la fin, qui a un sens, quand on lit le livret, ça prend tout son sens. C'est dommage juste que ce soit en anglais pour les non-anglophones.
Oui, alors les paroles ne sont pas très... On peut quand même, je pense, capter... Si on a fait un petit peu d'anglais, on peut quand même capter le sens du texte et le sens par rapport à la musique, bien sûr. Alors, Serge, les voyages en train, ça a inspiré d'autres compositeurs.
Ah bah oui, à commencer par Honegger, évidemment.
C'est peut-être le premier, d'ailleurs.
Hein. Peut-être, oui. Pacifique 231, fameuse pièce qui était à la gloire du progrès des trains de l'époque.
Bah, donc, Pacifique, ouais. C'était le nom d'une locomotive.
Le nom d'une locomotive, qui a fonctionné pendant très longtemps. Et puis, d'autres, hein, donc...
Il y a la musique à grande vitesse, justement, d'un autre minimaliste que j'ai cité tout à l'heure, l'anglais Michael Nyman, musique qui avait été composée pour l'inauguration de la ligne TGV Lille. C'était en 1993.
Ah, voyez-moi ça en France.
Et je conseille d'aller écouter, sur YouTube, ça se trouve facilement, cette pièce qui, elle aussi, est très intéressante et qui rend très bien les sensations qu'on peut avoir lorsqu'on prend un train à grande vitesse, cette fois-ci.
Oui, mais en l'occurrence, pour Steve Reich, ça correspondait à une période de sa vie, hein, alors qu'il était enfant, puisque ses parents étaient divorcés. Le père vivait à New York, la mère à Los Angeles, et donc il faisait de temps en temps ce long voyage. Il traversait tout le continent nord-américain, et c'était justement entre 39 et 42. Donc justement à l'époque où d'autres trains en Europe amenaient des prisonniers dans des camps de concentration, et donc Steve Reich a voulu associer les deux.
Alors comment ça va se passer lundi, Laura ? La bande magnétique va être lancée, et vous jouez par-dessus, c'est ça ?
Voilà, exactement.
Alors dites-moi... Il faut se préparer, je pense que ça ne doit pas être très simple, parce que vous avez répété sans doute sans la bande, et vous avez déjà commencé à répéter avec la bande magnétique sur place.
Effectivement, il y a l'acoustique de la salle qui est une grande question et qu'on va découvrir, entre guillemets, le jour J, puisque...
Vous allez répéter l'après-midi, sans doute.
Voilà, on va répéter l'après-midi. On a travaillé tout le long avec la bande magnétique depuis le début.
Et c'est très difficile, la mise en place, quand on joue sur une bande magnétique.
Alors, ce qui est difficile, là, en l'occurrence, c'est qu'il y a beaucoup de changements de tempi.
Et oui, totalement.
Et qu'en plus, la bande magnétique, ça ne pardonne pas. Il n'y a pas de micro-temps.
On ne peut pas s'attraper.
Voilà, ouais. Dans la musique donc, acoustique ou live, il y a la respiration. Et là, il y a un côté hyper rythmique. On ne peut absolument pas déborder.
Ben oui, le train lui roule tout le temps. Hein.
Voilà. Ah oui. Formidable, ça c'est une expérience intéressante.
Ah, je pense que pour les auditeurs, ça va être une expérience musicale et sensorielle. Et voilà, il va falloir aussi se mettre dans la peau du voyageur, dans un wagon, un train. Alors comme je pense que nos auditeurs meurent d'envie d'écouter un extrait de Different Trains, et je les comprends, voici un mouvement de cette pièce de Steve Reich, un mouvement intitulé « Before the War ». Before the War, extrait de Different Trains de Steve Reich, une version du Kronos Quartet, pour qui l'œuvre avait été commandée au compositeur américain en son temps. Rien que pour cette pièce, je trouve que ça vaut le coup d'aller voir le concert des Clés de Saint-Pierre lundi, mais il y a d'autres très belles œuvres au programme. Deux, à commencer par le Quatuor à cordes numéro 3, opus 46 de Victor Ullmann, compositeur et œuvre que je ne connais pas personnellement. Donc, juif austro-hongrois, mort en déportation à Auschwitz en 1944. Oui. 44. Ça doit être un des derniers d'ailleurs, malheureusement, ben qui oui, ont été ben déportés oui. Auschwitz, et il est mort, je crois, très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce compositeur, de ses contemporains? Je crois qu'il a fréquenté Gustav Mahler.
Oui, 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 il a fréquenté Mahler,
autre juif austro-hongrois.
Exactement.
Autrichien.
Oui, ça a été, il y a eu plusieurs compositeurs.
Il était proche de Schoenberg aussi, je sais.
Juifs de l'époque qui ont été mis à l'index par le régime nazi, qui appelait leur musique eine entartete Musik, c'est-à-dire une musique sans art. C'est consternant d'entendre ça, hein, de réaliser qu'on a éliminé des grands compositeurs de l'époque. Victor Ullmann est un de ceux-là. Et donc c'est très très bien qu'on ressorte un peu ses œuvres qui méritent plus que l'oubli.
Alors d'ailleurs, il a composé ce Quatuor à cordes numéro 3 plus 46 en 1943 au camp de Theresienstadt,
voilà.
C'était dans les Sudètes.
Oui, c'était un camp dans lequel les nazis réunissaient des musiciens. Et d'ailleurs, ils ont même réalisé un reportage, biaisé évidemment, pour montrer à quel point les musiciens étaient bien traités dans ce camp de concentration, ce qui était évidemment une supercherie extraordinaire.
Alors vous, Laura, je suppose que vous ne connaissiez pas non plus, avant que Laura Jeuillet vous en parle, cette œuvre et ce compositeur. Quand elle vous l'a présenté et fait découvrir, comment vous avez trouvé sa musique ?
J'ai trouvé qu'il y a un côté très impressionniste, enfin, et post-romantique qui est très intéressant. à la fois très impressionniste et romantique, et en même temps des harmonies vraiment étranges. Et c'est vraiment un style à lui. Quoi.
C'est particulier, la composition et même les difficultés peut-être d'interprétation que présente cette œuvre.
Alors, les difficultés d'interprétation, c'est que ça change beaucoup. Il y a beaucoup de changements de dynamique, d'articulation. À chaque mesure, quelque chose de nouveau arrive.
Alors vous, Serge, vous connaissez d'autres œuvres d'Ullmann ? Ça va être aussi une complète découverte pour vous ?
Non, honnêtement, non. J'ai entendu parler du compositeur, mais je vous avoue que je ne connaissais pas. Et surtout pas ce quatuor.
Ouais, il était aussi pianiste, bon pianiste apparemment, ce Victor Ullmann, que nous allons découvrir dans le registre du quatuor à cordes grâce à ce concert Temps de guerre lundi à Saint-Pierre-des-Cuisines. Eh bien, il est temps que nous fassions découvrir le quatuor à cordes numéro 3 plus 46 de Victor Ullmann à nos auditeurs. Pour qu'ils puissent se faire une idée de cette œuvre et de ce compositeur, c'est le premier mouvement Allegro Moderato que je vous propose d'écouter maintenant. Le premier mouvement Allegro Moderato du quatuor à cordes numéro 3 opus 46 de Victor Ullmann. L'autre œuvre au programme du concert des Clés de Saint-Pierre ce lundi 18 mars, je dis l'autre œuvre, il y en a une troisième, c'est le quatuor numéro 3 en fa majeur opus 73 de Dimitri Chostakovitch, un des premiers du compositeur russe puisqu'il y en a 15 en tout de même. Il était composé en 1946 après la fin de la Seconde Guerre mondiale alors que Staline, le grand vainqueur de l'armée hitlérienne, règne en maître absolu sur l'URSS. Et figurez-vous que cette œuvre, juste après sa création, a été censurée par le régime soviétique pour formalisme et pessimisme. Alors dites-moi Laura, c'est vraiment pessimiste et formel ce quatuor à cordes numéro 3 de Chostakovitch ?
Alors effectivement, le pessimisme, on l'entend clairement dans le troisième mouvement, dans lequel il se moque des parades militaires, on sent un côté grotesque à tout ça, à la guerre.
Ouais, qui passe souvent dans les œuvres de Chostakovitch, ce côté burlesque, grotesque, lorsqu'il rapporte ça au défilé que nous on a connu plus tard à la télévision dans l'URSS, plutôt de la fin. Mais je pense qu'à l'époque déjà, ce côté grotesque était très présent, peut-être même encore plus qu'il ne l'a été dans les années 80. Ce que vous en pensez. Mais...
Oui, mais Chostakovitch, c'est le champion de l'ambiguïté, de l'expression. Il se débrouille pour écrire des mouvements, par exemple le mouvement final de la 5e symphonie, qui ressemble à un triomphe et qui en fait est un mouvement de désespoir. Et donc il donnait le change vis-à-vis des autorités soviétiques de l'époque par ce double langage qu'il menait en permanence. Donc c'est vraiment très subtil comme musique.
Et toujours ces pièces, ces mouvements très contrastés dans une même pièce de Chostakovitch, où se côtoient l'angoisse, l'inquiétude, un danger qui rôde, qui plane. Hein. Quand on sait la vie qu'il avait, lui qui se sentait et qui était surveillé en permanence, on peut le comprendre. Puis il y a des moments parfois un peu plus sereins, comme dans le premier mouvement. Hein. Je ne sais pas comment vous voyez ça, vous Laura qui allait le jouer lundi.
Oui, le premier mouvement, pour moi, c'est la fête populaire. Enfin, il a voulu exprimer et montrer la vie des gens avant la guerre, dans les années 30, et une vie plutôt paisible. Il ne se doutait pas de ce qui allait arriver. Et moi, j'imagine vraiment en le jouant une fête populaire.
Je crois que c'est ça, ouais.
Voilà.
C'est
ça. Oui, tout à fait, oui.
Est-ce que c'est un compositeur que vous aimez et que vous aimez jouer? Parce que vous jouez souvent avec l'Orchestre du Capitole, ses symphonies notamment.
Moi, j'adore jouer ce compositeur, notamment parce qu'il y a souvent des beaux solos d'alto.
Ah, donc il y a une raison entre toute autres... personnelle, en fait.
Non, mais je trouve qu'il a vraiment équilibré, dans Squature, par exemple, il a vraiment équilibré les solos. Et tout le monde y trouve son compte et tout le monde a des solos hyper intéressants et hyper beaux.
J'ai l'impression qu'on redécouvre de plus en plus la musique et l'œuvre de Chostakovitch, entre autres sa musique de chambre.
Oui, c'est vrai. Oui, oui.
Qui est très riche et prolifique.
15 quatuors, 15 symphonies aussi, donc
oui.
C'est quand même pas mal. Ah oui, et puis on redécouvre Chostakovitch. Et puis à Toulouse, on a la chance d'avoir Tougan Sokiev,
oui.
Pour qui évidemment Chostakovitch représente un emblème important, hein, puisque l'Orchestre du Capitole, avec Tougan, ils ont décidé tous les deux d'enregistrer l'intégrale
des
15 symphonies de Chostakovitch. Il y en a pas mal qui sont déjà enregistrées, donc on espère que ça ira jusqu'au bout et qu'on pourra avoir une belle intégrale.
Mais colossal projet pour vous faire entrevoir la beauté de ce quatuor à cordes numéro 3 de Dimitri Chostakovitch. Nous allons écouter maintenant un extrait de son premier mouvement, Allegretto, la fête populaire. Le premier mouvement Allegretto du quatuor à cordes numéro 3 de Chostakovitch, une version du quatuor Borodine, avec lequel nous terminons notre exploration du programme du prochain rendez-vous des Clés de Saint-Pierre, qui est donc donné ce lundi 18 mars à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Trois œuvres très différentes, mais toutes superbes. Inutile de vous dire que je vous conseille vivement d'aller les découvrir en concert. Ce sont des raretés, alors il ne faut pas rater l'occasion. Avant de conclure cette émission, je voulais annoncer les concerts du mois de mars de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Ils ont lieu les 19 et 20 à l'Escale de Tournefeuille et les 25 et 26 à Saint-Pierre-des-Cuisines, à chaque fois à 20h30. Et leur programme est entièrement dédié à Pergolèse. On trouve, sans surprise, le fameux Stabat Mater parmi les pièces qui vont être jouées, mais deux autres sont également au menu. Laura et Serge, connaissez-vous d'autres œuvres de Pergolèse en dehors du Stabat Mater ?
Le Stabat Mater, c'est évidemment l'œuvre phare de Pergolèse, qui n'a pas eu la possibilité de beaucoup composer, puisqu'il est mort très jeune, hein, peu après le Stabat Mater d'ailleurs. Et donc, il a composé quelques sonates et concertos, mais je ne pense pas qu'il ait composé autant que Scarlatti, par exemple.
Et vous, Laura, ça vous dit quelque chose? À part le Stabat Mater, Pergolèse, vous avez d'autres œuvres en tête?
Là, comme ça, non, il n'y a rien qui me vient. Je connais que le Stabat Mater.
Bon, et bien alors, ça sera là aussi l'occasion d'en savoir un peu plus sur l'œuvre de ce très beau compositeur qui a vécu malheureusement très peu de temps puisqu'il est mort, il n'avait même pas 27 ans. Il avait juste eu le temps de terminer son Stabat Mater. Et bien là, l'Orchestre de Chambre de Toulouse va jouer aussi le concerto en sol et le concerto pour violon en si bémol majeur. Voici justement un extrait du concerto pour violon en si bémol majeur de Pergolèse. Vous allez voir que c'est une œuvre tout aussi brillante que le Stabat Mater. Le concerto pour violon en si bémol majeur de Pergolèse, un extrait de cette très belle pièce du compositeur italien à qui l'Orchestre de Chambre de Toulouse rend hommage en ce mois de mars lors des concerts qu'il donne à l'Escale de Tournefeuille et à Saint-Pierre-des-Cuisines, concerts au cours desquels vous pourrez entendre également le Stabat Mater et le concerto en sol. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro de Mélomanie. Merci à Serge Chosy d'avoir encore été à mes côtés pour l'animer et merci à Laura Esminger d'y avoir participé et nous avoir présenté le prochain concert des Clés de Saint-Pierre qui a donc lieu ce lundi 18 mars à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines bien sûr. Temps de guerre, c'est le titre du programme de cette belle soirée musicale où vont être interprétés Different Trains de Steve Reich, le quatuor à cordes numéro 3 opus 46 de Victor Ullmann et le quatuor numéro 3 en fa majeur opus 73 de Dimitri Shostakovich. Sur le plateau, un quatuor de musiciens de l'orchestre du Capitole dont Laura Ensminger à l'alto. Pour vous renseigner et surtout pour réserver vos places, je vous invite à consulter le site web des Clés de Saint-Pierre, www.lesclésdesaintpierre.org. Je signale aussi le ciné-concert qui clôture les musicales franco-russes ce samedi 16 mars. C'est à 18h à la Halle au Grain, avec la projection du film La Nouvelle Babylone, accompagnée de la musique originale de Dimitri Shostakovich, encore lui. Elle sera interprétée par l'Orchestre National du Capitole. Réservation sur le site www.onct.toulouse.fr. D'autre part, ce même samedi 16 mars à 20h30, notez le concert poétique La meilleure jeunesse proposé par les Baladins d'Icarie à la salle des fêtes de Pain-Justaret, des poèmes de jeunesse de Pier Paolo Pasolini lus en français et en italien, entrecoupés de chants interprétés par Bénédicte Clermont-Pesous, soprano du chœur du Capitole, accompagné à l'accordéon par Alessio Palazzotto. Pour en savoir plus, vous pouvez vous renseigner sur le site www.lesbaladinsdicarie.eu. Et je rappelle enfin les dates des 4 concerts Pergolèse donnés par l'Orchestre de Chambre de Toulouse à l'Escale de Tournefeuille mardi 19 et mercredi 20 mars, puis à Saint-Pierre-des-Cuisines lundi 25 et mardi 26. Tous ces concerts commencent à 20h30 et vous pouvez réserver vos places sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission qui est disponible en podcast et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de nous être toujours fidèles. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.